Alors bonjour, bon après-midi et merci d'être ici avec nous pour parler des expériences démocratiques en Afrique. C'est sans doute les premières questions que l'on pose couramment en France à propos de l'Afrique. Ça tourne toujours à peu près autour du même thème. Où trouver les pays d'Afrique qui marchent, qui s'en sortent? Où faut-il regarder sur ce continent pour retrouver l'espoir? Ce sont des questions en principe bien intentionnées. On aimerait bien que l'Afrique s'en sorte, probablement imprégnée d'une certaine culpabilité, mais aussi remplie d'un scepticisme étayé à la fois par certaines réalités et aussi par des stéréotypes persistants. L'Afrique serait-elle intrinsèquement désespérante? S'interroger ainsi sur l'Afrique qui marche ou qui pourrait décoller si, c'est évidemment s'interroger sur les institutions politiques, sur les libertés, bref, sur la démocratie. Autant dire à quel point le sujet que nous allons aborder cet après-midi est central. Or, 50 ans après les indépendances africaines, le bilan en la matière n'est pas glorieux. Sur une carte de l'Afrique démocratique, peu de pays clignotent en vert. L'Afrique du Sud, le Botswana, le Ghana, peut-être le Kenya, côté anglophone, le Mali, le Bénin, le Sénégal, sans doute, côté francophone. Et encore, ces lumières vertes sont plutôt du genre vacillant ou pâle. L'autre plateau de la balance, le plus lourd sans doute, c'est celui des États autocratiques, dirigés à différents degrés par des satrapes plus ou moins indéboulonnables, depuis le caricatural Robert Mugabe au Zimbabwe jusqu'au vieux serviteur de la France-Afrique, le Gabonais Omar Bongo ou le Camerounais Paul Biya. Encore ne sont-ils que le début d'une liste, de la liste de ceux qui pratiquent ce que Jean-François Bayard appelle la politique du ventre, autrement dit la corruption et la captation des richesses. Entre les deux, on trouve toutes sortes d'alliages entre autoritarisme et liberté, entre vernis démocratique et violence d'État. On trouve des raisons d'espérer, comme la multiplication récente des alternances pacifiques au Ghana, au Mali, au Bénin, la progression indéniable de la liberté de la presse et d'expression, aussi l'émergence des sociétés civiles dans de nombreux pays, mais aussi des raisons de désespérer avec la longue série de violences pré- ou post-électorales du Togo, au Kenya, au Zimbabwe aussi, l'impressionnante liste des élections volées par la fraude, la non moins imposante série des coups d'État classiques, comme récemment en Mauritanie ou à Madagascar, ou des coups d'État constitutionnels très efficaces aussi pour se maintenir au pouvoir ou parfois pour imposer son fils. Sur la question de la démocratie, il n'existe pas de réalité africaine unique, ni donc de fatalité, mais plutôt un nuancier qu'à ce stade, je serais tenté de mettre en parallèle ou en tout cas de confronter avec le degré d'existence des États. Et de ce point de vue aussi, le continent présente un large éventail, depuis les pays dénués de la moindre trace d'institutions étatiques, comme la Somalie, livrée à la jungle des clans, jusqu'aux États disposant d'une administration ou de ce qu'il en reste après 20 ans de moulinette libérale. Mais là où les Africains se retrouvent, me semble-t-il, c'est pour aspirer à la démocratie. De Kinshasa à Kampala, de Monrovia à Dakar ou à Accra, il suffit d'assister au spectacle de ces foules levées aux aurores et piétinant des heures dans la chaleur pour déposer un bulletin dans l'urne pour se convaincre que le désir de choisir librement ses dirigeants n'est pas un produit d'importation. Le spectacle de la rage et des violences qui enflamment les populations lorsqu'elles découvrent que le vote n'a été qu'un rituel et que leur voix a été volée conforte ce constat. Il suffit aussi de voir le courage de certains militants pour dénoncer la corruption, de certains journalistes aussi. La démocratie n'est pas une aspiration étrangère aux cultures africaines, ni le multipartisme un luxe pour les pays pauvres, comme l'avait affirmé l'ancien président Jacques Chirac. Et c'est cette demande africaine de démocratie, ces chemins africains forcément chaotiques qui y mènent, qui vont surtout nous intéresser cet après-midi. Nous chercherons moins à établir le bilan qu'à rendre compte des expériences et à décrire les voies singulières qu'empruntent les Africains vers la démocratie. Alors pour explorer ces chemins encore assez mal balisés, le forum devait réunir trois grands analystes des réalités africaines. Achille Bembe est excusé et absent en tout cas. Achille Bembe qui devait venir d'Afrique du Sud donc n'est pas avec nous. Et donc je vais avoir le plaisir et l'honneur d'arbitrer le dialogue entre Mamadou Diouf, qui est à votre droite, qui est sénégalais et professeur à l'Université Columbia à New York, où il dirige l'Institut d'études africaines. Il est historien du colonialisme et du nationalisme, et il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire politique du Sénégal et sur les figures politiques en Afrique, dont en 2003, La construction de l'État au Sénégal, chez Cartala. Jean-Pierre Dezon, à votre gauche, est un anthropologue français, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. En 2003, il a publié « Frères et sujets, la France et l'Afrique en perspective », qui analyse les ambiguïtés du discours colonial français et de ce qu'on peut appeler le besoin d'Afrique. En 2008, il vient de publier « L'Afrique à Dieu et à Diable », qui examine les conséquences politiques de la dérégulation des sociétés africaines durant ces deux dernières décennies. Donc nous allons d'abord confronter les deux analyses de nos deux invités, et puis vous allez sûrement réagir et puis nourrir le débat de vos questions. Donc vous êtes déjà invités à y réfléchir et à les formuler. Alors avec Mamadou Diouf, notre premier balisage va être d'ordre historique. Après la fin de la guerre froide, donc au début des années 90, les populations africaines sur le continent africain qui étaient pour ainsi dire libérées des tensions Est-Ouest, les populations ont multiplié les mouvements de revendication destinés à instaurer le pluralisme, parfois au prix du sang versé. Ces mouvements ont contribué à instaurer une sorte de pluralisme, mais souvent assez factice. Et Mamadou Diouf va nous expliquer en quoi nous sommes en train de vivre sans doute un deuxième temps dans la construction du pluralisme et donc de la démocratie en Afrique.
Merci, Monsieur Bernard. Donc, je commencerai d'abord par dire que c'est vrai que le portrait qu'on dresse de l'Afrique en relation avec la démocratie est souvent un portrait négatif. À partir du moment où les critères qui semblent définir la démocratie sont à la fois des critères idéologiques et des critères institutionnels tirés de l'expérience européenne. C'est-à-dire on tente de rendre compte de processus démocratiques à partir d'un vocabulaire et de pratiques qui ne sont pas nécessairement le vocabulaire et les pratiques des sociétés, qui sont les sociétés qu'on essaie d'analyser. Et cette première considération est importante parce qu'elle permet de comprendre les formes que prennent à la fois les expériences politiques, je dirais pas démocratiques en Afrique, et l'analyse que nous en faisons comme professionnels ou comme observateurs. Et il y a deux moments qu'il faut prendre en considération dans cette analyse. Le premier moment, pour les sociétés africaines et toutes les sociétés africaines, à deux exceptions près, le Libéria et l'Éthiopie, sont des contextes de domination coloniale. Et dans un contexte de domination coloniale, en particulier celle relative aux deux grands empires, l'empire colonial français et l'empire colonial britannique, c'est qu'il y a trois questions qui sont des questions importantes. Première question, la démocratie n'est pas une modalité dans l'empire colonial. Les sujets coloniaux sont administrés comme des choses. Ils ne sont pas gouvernés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas représentés. Première chose, donc, première conclusion, si on prend l'histoire de la colonisation, on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler d'expérience démocratique pour les Africains, au moins durant toute cette période. Deuxième élément, qui est un élément important à prendre en considération dans cette discussion, c'est combiné en fait à l'absence de représentation et l'absence de gouvernement. Il y a une logique idéologique qui dit que, et c'est pour ça que les Africains sont colonisés, c'est que les Africains sont impropres, en fait, au statut de sujet, au statut de citoyen. C'est pour ça qu'ils sont dominés, c'est pour ça qu'ils doivent être civilisés. Et c'est ça, la mission civilisatrice. Donc là aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la démocratie, elle n'est pas là. Troisième chose, et la plus forte et la plus prégnante aujourd'hui pour les Africains, c'est qu'en fait, ils doivent être dirigés à partir de ce qu'on appelle leur culture. Et cette culture, dans les deux cas, les Anglais la théorisent en parlant d'indirect rule, mais les Français qui parlent d'assimilation ont utilisé aussi l'indirect rule. Ça veut dire que l'Africain impropre à une gestion gouvernementale ou démocratique est propre qu'à une seule gestion, la gestion ethnique, celle de sa culture. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un discours simple. Le jeu politique africain est contenu dans une bibliothèque qu'on pourrait appeler une bibliothèque ethnique, manipulée par le système colonial. Et les trois éléments dont je viens de parler sont des éléments qui sont portés par une violence constante, une violence quotidienne, la violence de la colonisation, qui dénie au sujet colonial la possibilité de s'exprimer, la possibilité d'avoir des droits. Donc ça, c'est un premier moment. Le deuxième moment, c'est ce qu'on pourrait appeler le moment de l'après-Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, qui redonne un nouveau contexte à cette prise en charge politique des colonisés. Et dans l'affrontement Est-Ouest, les Africains sont pris au piège. C'est-à-dire que même la lutte nationaliste est piégée par cette logique. Et c'est encore une logique qui freine toute expérience démocratique, qui freine toute expression démocratique. Parce que chaque fois qu'il y a un Africain qui s'élève, par exemple, au Congo contre l'administration coloniale, il est manipulé par les communistes, bien sûr. Donc vous voyez, en fait, les deux moments qui sont les deux moments les plus importants, ce sont des moments où l'idée démocratique ne peut pas être exprimée, ou si elle est exprimée, elle est réprimée. Mais ce qui fait, en fait, le ciment de la plupart des sociétés politiques africaines, c'est le ciment ethnique. Le langage de la revendication politique est un langage ethnique. Et bien sûr, je fais une différence entre un langage ethnique tribal, manipulé, et des logiques ethniques qui sont des logiques d'affrontement et de confrontation à l'intérieur d'une ethnie et entre des ethnies, et qui sont des logiques proprement historiques. Donc, au moment où les Africains atteignent, si vous voulez, l'indépendance, ils sont pris au piège. Le piège de l'impossibilité de ce que leur leader revendique, le non-alignement. Et il y a une histoire aussi qui est une histoire de l'idée partagée par toutes les sociétés, par tous les leaderships occidentaux, communistes ou non, que l'Afrique a besoin de pouvoirs autoritaires pour l'intégration. Et que l'idée du pluralisme est une idée qui ne peut pas s'acclimater en Afrique. Donc, la logique de l'État autoritaire est une logique historique, mais c'est aussi une logique, c'est aussi le produit de positions circonstancielles dans un contexte qui est le contexte de la guerre froide. Donc, les Africains parviennent à l'indépendance avec cette idée, mieux vaut pousser la démocratie à côté et construire des États solides, rattraper l'Ouest, si vous voulez. Mais en même temps, il y a, parce que ça fait partie, si vous voulez, du package nationaliste, il y a constamment eu des revendications démocratiques qui sont réprimées. C'est-à-dire, si vous regardez l'histoire des sociétés africaines entre 60 et 65, c'est l'histoire de combats violents contre contre l'État autoritaire et pour la démocratisation. Et dans ces combats-là, les sociétés occidentales démocratiques ont, dans la plupart des cas, pris fait cause pour le pouvoir autoritaire. Si vous prenez les crises ivoiriennes de l'année 63, la crise sénégalaise de 62 et les multiples coups d'État qui arrivent en Afrique entre 1963 et 1966, la guerre civile au Nigeria, on voit très 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 bien les positionnements qui se passent. Donc, durant au moins la première décennie, la seconde décennie s'ouvre avec des revendications. Le retour en fait, des mouvements sociaux pour la démocratisation. Les premiers mouvements sociaux ont été réprimés. Plein de leaders sont morts en prison ou se sont exilés. Et il y a une seconde phase qui commence à peu près dans les années 70 et que c'est cette phase qui va entraîner les transitions démocratiques. Et là aussi, on retrouve face à une nouvelle situation, une accélération avec la fin de la guerre froide. Mais il y a une chose intéressante qui pourrait être la base d'une bonne discussion. C'est qu'on a souvent tendance à considérer que la transition démocratique en Afrique a été causée par toute une série d'événements au niveau mondial. La fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, le début de ce qu'on a appelé le moment néolibéral, etc. Mais on oublie souvent que ce sont les Africains qui ont payé le prix de cette démocratisation, que ce sont les mouvements sociaux africains qui ont enclenché la dynamique, qui s'est certes accélérée avec différents mouvements globaux, mais il est impossible d'associer le mouvement démocratique à l'intervention externe uniquement. Au contraire, cette intervention externe a parfois joué un rôle très négatif. Et ce qui le montre le plus, c'est en fait cet extraordinaire paradoxe français qui associe la démocratisation en Afrique au fameux discours de Mitterrand de la Baule. Ce discours n'est pas du tout un discours de promotion démocratique. C'est un discours qui tente d'encadrer le développement démocratique en Afrique et de limiter les possibilités qui se faisaient. Donc, au lieu d'aider à la démocratisation, le discours de la Baule a tenté de l'intégrer. Et il y a des exemples simples qui le montrent. Le fait que la Côte d'Ivoire ait résisté aussi longtemps à l'instauration, en fait, du multipartisme, les soubresauts du Togo, mais même la crise rwandaise, montre effectivement les choix qui ont été faits par la classe politique française, que la démocratie ne peut pas se faire contre la France. Ce qui veut dire que c'est une option qu'on refusait aux Africains. Donc, il y a ces éléments. Et ce qui s'est passé rapidement, c'est que la convergence de ces multiples trajectoires on pourrait dire donner une espèce de consensus à ce qui pourrait être la démocratisation en Afrique, c'est-à-dire la réduire à une chose qui est très simple, le rituel électoral. Au lieu de créer des sociétés ouvertes, on a créé des sociétés qui, semble-t-il, peuvent se régulariser par un rituel qui est le rituel électoral. Et ce rituel électoral crée, dans la plupart des cas, des autoritarismes légitimés. Et le décalage aujourd'hui en Afrique, et c'est ça qui a entraîné les grands conflits de ces 10 dernières années, c'est le décalage entre une démocratie institutionnalisée et des sociétés complètement fermées, et un autoritarisme, un clientélisme et une corruption d'une absurdité étonnante. Et le plus absurde, c'est que les gens qui, en fait, aujourd'hui se disent qu'ils sont désespérés de l'Afrique, ces gens sont au courant de où est passée l'argent de la corruption en Afrique, ce sont dans leurs banques. Donc, pourquoi blâmer les Africains pour des pratiques qui sont des pratiques au moins légitimées par les sociétés? Si vous suivez tout le débat en France sur le rapport à la France-Afrique, les tribulations de Bongo, etc., vous voyez très bien qu'est-ce que ça veut dire, démocratiser les sociétés africaines, quand la France reste un acteur important dans le processus démocratique africain. Et que quand les hommes d'État africains ont parfois une influence considérable dans le jeu politique français et une capacité effectivement d'altérer ce jeu politique. Que voulez-vous que les Africains fassent dans ce cas-là? Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en fait des sociétés qui se retrouvent à la croisée des chemins, mais qui font, contrairement à ce qu'on dit aussi, qui font des progrès considérables. Par exemple, si vous regardez en termes de conflits, il y a une vingtaine d'années, il y avait au moins une quarantaine de conflits en Afrique. Aujourd'hui, il y a moins de 10 conflits en Afrique. Il n'y en a plus beaucoup. Donc, les Africains arrivent progressivement par la guerre. Et c'est aussi, malheureusement, c'est une solution. Et quelquefois, probablement, il faudrait laisser les Africains faire leur guerre et mettre un terme à leur guerre eux-mêmes et non s'y immiscer et les arrêter au milieu, ce qui crée des situations comme des situations ivoiriennes. Mais c'est ça qui est important, c'est que les Africains se prennent en charge, y compris dans la guerre. Et c'est cela qui va probablement leur permettre d'ouvrir les sociétés et de les ouvrir de la manière la plus conforme à une histoire très complexe. Mais c'est cette seule manière qui leur permettra probablement de produire dans la violence, probablement, une démocratie, mais une démocratie acceptable pour les Africains et produite par les Africains.
Alors maintenant que Mamadou Diouf a tracé les voies du possible et rompu avec cette espèce de voilà, d'afro-pessimisme ambiant, on va rentrer dans les choses plus transversales peut-être et montrer en quoi récemment sont apparues sous différentes formes des expressions pluralistes qui annoncent le renouveau démocratique et aussi, et ça sera peut-être un sujet de débat après, en quoi ces formes de pluralisme sont parfois issues d'histoires très anciennes, largement précoloniales.
Merci Philippe Bernard. Peut-être pour dire qu'il n'y aura peut-être pas tout à fait, mais on va peut-être trouver des sujets de controverse avec Mamadou, mais de ce que j'ai entendu, j'en vois guère, peut-être on parlera des questions de la France et de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, peut-être à l'occasion, puisqu'en effet c'est l'occasion, puisque tu as évoqué ça, donc on en parlera. Donc je vais donc à mon tour essayer de baliser cette affaire ô combien difficile que sont la question, qui est la question des expériences démocratiques en Afrique, et donc je vais le faire de la manière suivante. Alors, pour éviter, sans que cela soit une posture artificielle, d'avoir à dire qu'il y en a ou qu'il y en a eu bien peu de la démocratie, et que de ce point de vue-là, l'Afrique semblerait comme foncièrement réfractaire à ce que nous reconnaissons assez spontanément comme des formes de gouvernement et des habitus démocratiques, et tu évoquais le rituel électoral, s'en est un. Eh bien, pour ces deux raisons, je crois pour ma part qu'il ne faut pas trop se fixer sur le terme de démocratie, sur lequel, d'ailleurs, et je crois que ce colloque, dans d'autres lieux, aborde cette question, le terme de démocratie dans nos propres univers, eh bien, on peut très bien en discuter. Je veux dire, on peut ne pas s'entendre, ou on peut lui apporter des bémols. Par exemple, en considérant que la démocratie, aujourd'hui, par exemple, il laisse trop de place aux inégalités, aux exclusions, qu'elle y est donc comme biaisée, ou que l'on y fonctionne compte tenu des urgences planétaires, et les urgences aujourd'hui, comme vous le savez, sont nombreuses, la crise mondiale, l'environnement, les épidémies, etc., tout ceci fait que parfois on se dit qu'on entre dans des sociétés post-démocratiques. Alors, je pense donc qu'il est plutôt préférable de parler d'expérience politique ou d'expérience pluraliste qui ont façonné les sociétés africaines et qui façonnent parfois, au risque de les mettre en cause, les actuels mondes communs que sont les actuels États-nations africains. Alors, pour donner une idée plus précise de ce changement de formulation, je voudrais en premier lieu, mais très rapidement, trop rapidement, évoquer les sociétés africaines précoloniales, dites aussi traditionnelles, mais dont les ethos ou les institutions continuent à informer peu ou prou nombre de normes et de manières de faire chez les gouvernants comme chez les gouvernés en Afrique. Il est en effet important de dire ou de redire, contrairement à ce qui se raconte trop souvent, y compris, comme vous le savez, de façon très officielle, que les sociétés africaines, qu'elles fussent lignagères, c'est-à-dire sans pouvoir politique distinct des autres institutions sociales, ou qu'elles disposent d'appareils étatiques du type royauté ou chefferie, et bien que ces sociétés africaines précoloniales étaient des sociétés éminemment politiques, et pour cette raison même, des sociétés historiques. Sociétés éminemment politiques, cela signifie que si elles étaient régies par des rapports de domination, des hiérarchies sociales, parfois même extrêmement rigoureuses, elles étaient aussi animées et travaillées par des débats et des déballages, des palabres en l'occurrence, que le philosophe camerounais Jean-Godefroy Bidima appelle fort pertinemment la juridiction de la parole. Des palabres qui avaient pour fonction tout à la fois de reconnaître et de réguler différends et conflits, mais qui pouvaient également ne rien réguler du tout et déboucher sur des crises, sur des rébellions, des changements de dynastie et parfois sur des réformes importantes portant sur les règles sociales et les normes de la vie commune. En tout cas, la référence aujourd'hui même à la palabre par des responsables ou des intellectuels africains comme possible outil pouvant servir dans les espaces publics ou dans les sphères politiques témoigne de la reconnaissance d'une ressource en quelque sorte culturelle, c'est-à-dire de l'expérience ancienne, mais largement incorporée de procédures d'accord sur fond de différents ou sur fond d'une pluralité de points de vue. Alors je voudrais, en second lieu, évoquer tout aussi rapidement certaines expériences politiques que connurent les sociétés africaines durant la période coloniale et qu'a évoqué Mamadou Diouf. Alors, outre ce qu'on peut mettre au compte de ce que Achille Bembe, qui n'est pas là, mais que je fais justement parler, appelle des indocilités, c'est-à-dire de tous ces contournements et détournements à la manière du personnage de Vengrin dans le célèbre roman d'Amadou Ampateba, que quantité de colonisés africains opposèrent aux formes de commandement assez nettement despotiques des colonisateurs européens, outre ces multiples indocilités donc, il y eut très précisément, durant les années 40-50, des expériences de lutte qui façonnèrent nombre de trajectoires individuelles et collectives. Je songe par exemple aux importantes expériences syndicales qui furent celles de grèves de grande ampleur, par exemple en Afrique occidentale française en 1947-48 et en 1952. Mais je songe surtout à des expériences plus proprement politiques où, dans des contextes de régimes coloniaux quelque peu assouplis, des élites intellectuelles ont œuvré au mouvement d'émancipation et de construction nationale, tout en étant partie prenante d'un mouvement plus largement panafricain. Alors, sans doute, ces expériences divisèrent-elles profondément ces élites, par exemple, du côté des colonies françaises, entre une partie qui s'accommoda assez bien, parfois jusqu'à la compromission ou la trahison des formules de reconduction des rapports hégémoniques ou de dépendance proposées par l'État français, et une autre associant idéologie de libération nationale et idéologie communiste, fermement décidée avec cela à accéder à une véritable indépendance, et qui fit pour cette raison même la très rude expérience de la répression coloniale. Par exemple, au Cameroun, dans les années 1950, où l'armée française réprima dans le sang l'UPC, l'Union des populations camerounaises. Mais si elles marquèrent profondément les débuts des États africains au tournant des années 60, ces divisions n'en constituèrent pas moins un fond d'expérience, parfois du reste démocratique, qui agit durablement comme carte de référence de ce qu'est l'action et le combat politique, et qui du même coup a nourri les mémoires et les récits nationaux. À cet égard, contrairement à ce qu'on dit souvent des États africains, en l'occurrence qu'ils sont des États artificiels, sans réalité proprement nationale, ce fonds d'expérience de lutte qui ont engagé les premières élites africaines, mais qui ont commencé souvent au moment des conquêtes coloniales, sous forme de diverses résistances, ce fonds d'expérience me paraît avoir donné une certaine consistance aux cadres et aux imaginaires nationaux africains, c'est-à-dire aux imaginaires sénégalais, ivoiriens, ghanéens, etc. Alors, après ces évocations du passé, mais qui, je crois, ont une certaine actualité ou une certaine capacité d'actualisation, j'en viens à la situation présente et qu'a évoqué Mamadou. Et donc, je vais recouper un certain nombre de choses de ce qu'il a dit. Pardon, excusez-moi. De prime abord, je dirais qu'elle n'est en effet guère édifiante. On m'a dit de ne pas bouger tout à l'heure, je ne sais pas. Donc, ça va là maintenant ? Alors, après ces évocations du passé, mais qui, je crois, ont une certaine actualité, ont une certaine capacité d'actualisation, j'en viens à la situation présente. Il fallait me le dire plus tôt. J'aurais...
Ne vous inquiétez pas.
Je l'aurais bougé. Donc, après ces évocations du passé, mais qui, je crois, ont une certaine actualité ou une certaine capacité d'actualisation, j'en viens à la situation présente. De prime abord, je dirais que cette situation n'est en effet guère édifiante sur le plan des expériences démocratiques proprement dites. Comme on le sait, il y a eu, au tournant des années 90, en même temps que la chute du mur de Berlin, de véritables mouvements populaires, portés en particulier par les nouvelles générations, qui ont contesté parti unique, père de la nation ou régime militaire. Mais durant cette décennie, où ont été mis en œuvre des programmes néolibéraux, qui ont dangereusement réduit la place centrale qu'occupaient les États dans les processus de construction nationale et dans les politiques de développement, durant cette décennie, on eut dans plusieurs pays africains des guerres civiles, des revendications et des affrontements ethnicistes qui ont sérieusement mis à mal les mondes communs nationaux sans pour autant les détruire. Alors, passé cette période particulièrement meurtrière, avec ses flots de réfugiés ou de déplacés, on se trouve depuis plus récemment en présence de situations assez curieuses et apparemment assez désespérantes, où des chefs d'État, qui ont pourtant été fortement contestés à un certain moment, sont toujours en place, où des oppositions se sont très consensuellement rangées aux nécessités de la bonne gouvernance ou du partage des rentes, et où, chose plus inédite, des fils ont succédé ou vont probablement succéder à leur père, comme au Togo, aux Républiques démocratiques du Congo, certainement en Libye, peut-être au Gabon, voire au Sénégal. Cela établissant, comme pour sauvegarder l'unité nationale, des sortes de dynasties. Par ailleurs, on a aussi, ici et là, sur fond de paupérisation d'une proportion toujours plus grande de la population, des pouvoirs d'État qui évoluent comme des secteurs informels, entre légalisme et illégalisme, et cela en étant impliqué dans divers trafics illicites. Cependant, malgré ce tableau plutôt sombre, on peut observer en Afrique des mouvements de fond qui laissent découvrir de l'activité politique et du pluralisme et qui, par là, donnent une certaine consistance à la vie publique et permettent la poursuite des processus de construction nationale. Alors, avant d'illustrer cela par quelques exemples, je voudrais faire une remarque générale. Si les références collectives, les appartenances ou les allégeances familiales, ethniques, religieuses, y sont certainement importantes, l'Afrique, c'est aussi aujourd'hui l'Afrique des individus. C'est-à-dire, au contraire des clichés les plus courants, une certaine fluidité des appartenances et des allégeances, comme une sorte de pragmatique des logiques d'adhésion et d'action. Cela se repère assez bien, et ce sera mon premier exemple d'expérience pluraliste, cela se repère assez bien au plan religieux, ou de ce qu'on peut découvrir à travers la prolifération des dénominations et des obédiences, que ce soit du côté de l'islam ou du côté du christianisme. Si on peut parfois s'inquiéter de cette prolifération, puisqu'elle gagne de plus en plus les sphères politiques, les espaces publics, et donne parfois lieu, en se combinant à d'autres problèmes, à des confrontations bien peu pacifiques, il faut voir aussi en elle, dans cette prolifération, un développement particulièrement pluraliste, avec, oserais-je dire, quelques accents démocratiques, puisque les prédicateurs et les pasteurs sont de plus en plus nombreux à s'auto-proclamer tels. C'est ce que j'appellerais la démocratisation du charisme. À quoi j'ajouterais que dans beaucoup de cas, les gens qui suivent ces mouvements n'en deviennent pas forcément des fidèles attitrés. Ils les expérimentent, au contraire, pour voir dans quelle mesure ces mouvements, ces figures charismatiques, sont à la hauteur de leurs problèmes ou de leurs aspirations. Et souvent, ils les quittent, ils les critiquent, ou tout simplement, ils n'obéissent pas à toutes leurs injonctions. J'en viens à un second exemple, peut-être un peu plus convaincant, mais qui relève de cette même problématique de la fuite des individus et d'une certaine fluidité des appartenances. Je veux évoquer les migrations internationales qui se sont intensifiées depuis une quinzaine d'années, à cause aussi bien des vagues de paupérisation que des multiples crises socio-politiques, mais qui assez souvent, particulièrement chez des jeunes allant dans les pays du Nord, constituent une nécessaire mise à l'épreuve pour accéder à un statut social digne de ce nom. Alors au-delà des images pathétiques qui sont trop fréquemment associées à ces migrations, je voudrais en souligner les aspects positifs sous l'angle précisément d'expériences pluralistes et politiques. Car outre l'importance qu'ont prise les migrations internationales dans les économies africaines, spécialement en termes de transferts financiers, il y a en elles, pour les individus qui en sont les protagonistes, assurément de véritables épreuves, avec nombre d'échecs ou de drames à la clé, mais il y a aussi dans ces migrations la possibilité de se confronter à plusieurs mondes, d'en être éventuellement des ressortissants jusqu'à acquérir parfois des doubles, voire plusieurs nationalités. Je vois là un gisement d'expériences plurielles, voire cosmopolites, qui peuvent se traduire en implications plus directement politiques dans les pays d'origine des migrants. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, nombre d'immigrés maliens, vivant, travaillant, ayant milité en France, parfois depuis assez longtemps, et qui ont souvent la nationalité française, se sont investis non seulement dans le développement local, mais aussi dans la politique de leur pays d'origine, politique aussi bien municipale que nationale. Il me semble donc que nombre des scènes publiques africaines, leur pluralisme, doivent se saisir en fonction des connexions qui s'établissent de plus en plus entre intérieur et extérieur, entre acteurs locaux et diaspora. Je voudrais terminer en donnant brièvement un troisième exemple. C'est celui de la production artistique en Afrique, qui est de plus en plus riche et diversifiée, comme vous le savez sans doute, que ce soit dans le domaine des arts plastiques, de la littérature ou de la musique. Étroitement lié à ce mouvement d'intériorité et d'extériorité, ou d'individualisation, que j'évoquais il y a un instant, cette production artistique que l'on commence à mieux connaître en Europe et dans le monde constitue souvent un lieu de satire sociale et de critique politique, surtout lorsqu'il s'agit d'art populaire comme la variété musicale, où s'inventent des prises de parole qui mettent à nu les tourments du peuple ou les impéricies des gouvernants. Alors, j'aurais pu parler, bien sûr, de ce qu'on évoque plus souvent pour parler de la démocratie en Afrique, et qui existe aussi, mais qui est plus banal en quelque sorte, car il existe aussi en Afrique aujourd'hui une diversification des partis politiques et de la presse, ce qui n'était pas le cas dans les années 60-70. Et puis il y a aussi une prolifération d'associations, d'ONG qui témoignent d'incontestable dynamisme civil, de la société civile, comme on dit. Mais il m'a semblé, je crois, utile de mettre en exergue quelques phénomènes ou mouvements en profondeur des sociétés africaines qui sont particulièrement faits de ces circulations individuelles entre plusieurs mondes, notamment entre Nord et Sud, ou voire même entre plusieurs offres religieuses, et d'où se dégagent, me semble-t-il, tout à la fois des prises de distance, de la critique et de l'engagement politique de la part de ceux qui les fréquentent. Merci beaucoup.
Merci, Jean-Pierre Bonjour. Alors, Alors, je ne vais sûrement pas évacuer la question qui a traversé les interventions de nos deux protagonistes, qui est celle de la responsabilité des pays riches, finalement, et singulièrement de la France, dans les difficultés démocratiques de l'Afrique. On va y venir, mais peut-être avant d'aller vers cette question évidente et essentielle, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le thème proprement dit de la discussion, qui est les leçons à tirer des expériences démocratiques. Où est-ce qu'il faut aller voir en Afrique pour constater ça? Est-ce qu'il faut aller en Afrique du Sud et s'intéresser à la manière dont ce pays est sorti d'un régime de violence extrême qui était l'apartheid? Est-ce qu'il faut aller voir les mécanismes électoraux, les alternances qui ont, comme on dit, réussi, en tout cas sur le plan formel dans certains pays, comme récemment au Ghana ou au Mali ou au Sénégal aussi? Est-ce qu'il faut aussi s'intéresser aux pratiques nouvelles des sociétés civiles, à l'émergence de certains médias, de certaines ONG? Voilà. Et en quoi ces pratiques nous renseignent sur la manière dont les Africains s'approprient eux-mêmes la démocratie, puisque c'est un petit peu ça la question. Est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez répondre à cette question? Où se tourner pour trouver la démocratie en marche et quels renseignements en tirer?
Je pense qu'il faut regarder partout, parce que on a deux problèmes en fait à comprendre les trajectoires africaines. Le premier problème, c'est que l'Afrique va dans tous les sens, à la fois des choses positives et des choses négatives, et en même temps. Et c'est ça la grande difficulté. La deuxième grande difficulté, c'est que l'Afrique change très, très, très rapidement. C'est-à-dire, pour moi, en tant qu'historien, quelquefois, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on lit un livre. Les recherches ont été faites il y a 10 ans, mais au moment où le livre paraît, les choses ont tellement changé qu'on ne sait plus ce qui s'est passé. Et cette rapidité a des conséquences sur ce qu'on appelle les expressions démocratiques, pour plusieurs raisons. Par exemple, on oublie souvent que l'Afrique a une population à presque 70% âgée de moins de 25 ans. Et ça change complètement même l'idée qu'on se fait de la citoyenneté. C'est-à-dire, quand on a 50 ans en Afrique, on est très vieux. On est très, très vieux. Et quand on a 30 ans, on est presque près de la tombe. Mais la manière dont les gens réagissent par rapport à leur environnement et par rapport aux offres de vie, aux offres de travail, est très, très différente quand on regarde d'un point de vue qui est d'un point de vue occidental, où on prépare son avenir quand on a 20 ans. Ici, on prépare sa mort quand on a 20 ans. Et ça a des conséquences, y compris dans, en fait, l'environnement économique dans lequel on vit. Ça change les formes que prennent la lutte politique. Ça change les formes que prennent l'accès aux ressources. Ça change les formes que prennent les rapports sociaux. Et c'est précisément ça qu'il faut voir, et de quelle manière ça se décline dans différents pays. Jean-Pierre Dozon, par exemple, a parlé de cette nouvelle possibilité en Afrique, du passage du pouvoir de père à fils, qui est une tradition arabe, on l'oublie souvent. Au Moyen-Orient, c'est classique. En Afrique, ce n'était pas arrivé. Le Togo, le Congo et le Togo sont le premier. Mais le Congo est un cas à part parce que c'est dans un contexte de guerre. Mais le Togo est un cas intéressant parce que c'est un cas dans lequel à la fois l'Union africaine et la France ont été obligées de coacher le président et d'imposer son arrivée au pouvoir. Et maintenant, il se retrouve véritablement dans la boue, parce que maintenant, c'est tous les enfants de Yadema qui n'ont pas la même mère qui sont en train de se battre pour le pouvoir. Et ceci est intéressant pour une chose, c'est que ça démontre aussi, si on compare avec ce qui s'est passé au Libéria avec Charles Taylor, que les Africains ont un sens politique extraordinaire, qu'ils sont capables de laisser les gros caïmans s'entretuer et de leur laisser l'espace. Ça aussi, ce sont des choix politiques qu'il faut prendre en considération. Si vous vous rappelez, quand après 8 années de guerre civile, les Occidentaux et l'OUA sont arrivés à imposer une solution électorale au Libéria, tout le monde s'attendait à ce que les Libériens qui ont vécu la violence des milices de Charles Taylor vote contre Charles Taylor. Et ils ont voté pour lui. Et tout le monde disait, mais on ne comprend pas, les Africains sont complètement fous. Pourquoi ils votent pour Charles Taylor?
Mais si on vous... par la menace, quand même.
Même avec la menace, l'idée, c'est que les gens chantaient « Charles Taylor a tué mon frère et mon père, a violé ma mère et mes sœurs, je vais voter pour Charles Taylor ». Mais c'est parce que tout simplement, ils savaient que s'ils ne votaient pas pour lui... ils retourneraient dans la forêt et ce serait la guerre. Ils ont fait un choix, et un choix très réaliste. Ils voulaient la paix. Mais le premier moment où ils ont eu l'occasion de se débarrasser de Charles Taylor, ils se sont débarrassés de lui. Un, deux, c'est le pays qui a le premier pays d'Afrique, avant la France et les États-Unis, à avoir élu une femme. Et qu'est-ce que ça montre? C'est la capacité des sociétés à rebondir. Et c'est pour ça que ces sociétés qui ont traversé ces crises très importantes sont capables de faire des choix. Deuxième cas qui me semble intéressant et qui montre que qu'il y a une découverte démocratique africaine, c'est le cas du Sénégal. En 2000, les Sénégalais élisent le président Wade et son parti contre le vieux parti socialiste qui était au pouvoir depuis 40 ans. Et Wade est devenu un dictateur démocratique, pour aller très vite. Et il a tellement cru à son pouvoir que le mois dernier, non, en mars, Wade a décidé de faire passer par un chemin clandestin son fils, préparer l'arrivée de son fils au pouvoir. Et dans un contexte où l'opposition sénégalaise n'a pas vraiment fait une campagne électorale, où ce qui a surgi, c'est une nouvelle génération de politiciens, de jeunes politiciens locaux, et c'était des élections locales, et c'est ça qui est le plus intéressant. Dans la plupart des grandes villes, ceux qui ont dirigé les listes électorales étaient des gens presque inconnus, très jeunes, moyenne d'âge 35-40 ans. Wade et son fils se sont fait battre dans leur propre bureau de vote. Au point E, ils se sont fait écraser. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Sénégalais sont en train de lui dire, on ne veut pas de votre fils. On ne veut pas de lui. Point. Et on est prêt à utiliser l'arme électorale. Il y a un troisième cas qui est très intéressant. Tout le débat autour de Zuma et de son arrivée au pouvoir. Et la manière dont l'arrivée au pouvoir de Zuma est lue à partir de l'Occident, mais aussi la manière dont on peut la lire à partir des propres expériences africaines, qui sont très différentes. Dans une société où, en fait, la démocratie est très institutionnalisée, où il y a des outils démocratiques et des organisations très fortes de la société civile, mais où il y a eu cette extraordinaire puissance de l'ANC, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à la fois, disons, une société qui se prend en charge. Et quand on compare Mbeki, Thabo Mbeki et Jacob Zuma, on le voit très bien. En quelqu'un qui a appris tout dans les grandes universités occidentales et quelqu'un qui a appris dans la prison. En quelqu'un qui reste très traditionnel et un autre qui est devenu une espèce de black British, Thabo Mbeki. Zuma a 5 femmes, il en a eu 9 à un moment. Mais on voit très bien comment les Africains tentent de gérer effectivement leur tradition. Parce que ce que les Africains du Sud disent, on veut un président qui nous ressemble. Pourquoi les gens n'auraient pas de président qui leur ressemble? Pourquoi vous voulez que les Sud-Africains aient un président qui ressemble à Sarkozy? ou bien la France ait un président comme Zuma. C'est aussi simple que ça. Donc il y a une logique, moi ce qui m'intéresse, c'est cette logique interne d'apprivoisement de la démocratie par les Africains eux-mêmes. Et je ne parle pas de démocratie en général, je parle de société plurielle, de société ouverte, qui sont capables de négocier toute une série de choses. Et là, en comparaison avec le Sénégal, c'est intéressant, l'Afrique du Sud qui a peut-être l'une des constitutions les plus démocratiques et les plus ouvertes du monde. Le mariage homosexuel ne s'est jamais posé comme problème en Afrique du Sud. Il est reconnu par la constitution. Dans une société comme le Sénégal, où il y a eu une réaction homophobique extraordinairement primitive, on voit justement de quelle manière...
C'est nouvelle.
Oui, qui est nouvelle, absolument. Comment ces sociétés tentent de gérer des transitions qui sont des transitions très difficiles. Donc le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu, si vous voulez, comment des prises de parole, des actions, etc., sont en train de montrer de nouvelles directions. Et dans ces nouvelles directions, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est l'émergence à la fois des mouvements de femmes, mais aussi des mouvements de jeunes. Et la tentative de desserrer, si vous voulez, des rouages qui sont des rouages coincés. Mais des tentatives qui sollicitent des ressources qui sont à la fois, si vous voulez, des ressources du monde moderne, du temps du monde, mais aussi une sollicitation de ressources qui sont des ressources qui ont constamment changé, et Jean-Pierre Dozon en a parlé. L'Afrique s'est constamment adaptée et les Africains sont constamment en position de transformation. Et ça, c'est lié à l'emprise coloniale. C'est pour ça que les jeunes Africains se tirent. C'est pour ça qu'ils veulent sortir. Parce que le monde est quelque chose qui s'est imposé à eux et qui s'impose constamment à eux. Et c'est ce dialogue-là, comme je disais tout à l'heure, qui peut prendre effectivement des expressions très violentes. C'est ce dialogue-là qui est en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 10 dernières années sont probablement des années où il y a un vrai processus d'indigénisation de ces pratiques-là, qui sont des pratiques africaines.
Jean-Pierre Dezon, dans les sociétés civiles, vous preniez l'exemple des religions, vous voyez d'autres mécanismes d'apprivoisement de la démocratie. Les religions, notamment les religions d'origine américaine, ne semblent pas être
des
ferments de démocratie.
Bien sûr, mais ce qui est... Alors, par rapport à ces mouvements, moi j'ai un rapport, comment dirais-je, je balance entre deux points de vue. Hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, aujourd'hui, l'Afrique est un terrain de prosélytisme hein, de tous bords. Hein. Islam avec toute la diversité islamique hein, qui existe, et puis du côté du christianisme aussi. Alors, bien évidemment, toute cette prolifération parfois donne lieu à des confrontations, en tout cas à des compétitions très vives entre les uns et les autres. Mais ce qui apparaît, c'est que ça fait, comment dirais-je, ça anime la vie publique en permanence. Je veux dire, aujourd'hui, vous allez dans une grande ville africaine, mégapole, Kinshasa, Dakar ou d'autres encore, ou Abidjan, on voit ça. Hein. On les voit, je veux dire, on voit toutes ces églises ou tous ces courants religieux qui animent les rues. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois une église qui occupe des lieux. Une rue est occupée
hein, pour les bâtiments fêter. Et
là, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'il y a des expressions qui sont... Bien sûr, il y a les pasteurs qui partent, qui prennent la parole. Alors, bien souvent, les pasteurs sont pasteurs depuis peu. Hein, il y en a certains qui se lèvent un matin et qui disent, voilà, ils sont pasteurs. Donc, il y a une prise de parole comme ça qui se fait et qui donne lieu, en tout cas, à une... Alors, bien sûr, c'est du dérivatif par rapport à toute une série d'autres problèmes. Mais il me semble qu'on ne peut pas qu'avoir un avis négatif par rapport à ça. Je veux dire, bien sûr, on peut y voir un danger ou des confrontations, mais on peut aussi y voir une espèce de, comment dire, de manifestation de la société à travers toutes ces affaires. Mais je voudrais revenir sur le propos de Mamadou, parce que je partage avec lui toute une série de choses, c'est-à-dire à la fois la question de la jeunesse en Afrique, c'est-à-dire en effet l'Afrique n'a jamais été aussi jeune que maintenant. Et jeune, ça veut dire entre 5 et 25 ans. Donc, c'est une population, d'ailleurs, qui est intervenue, comme on le sait, y compris dans les conflits, puisque un certain nombre de guerres ou de milices étaient composées de jeunes. Donc, bien sûr, avec le danger que ces jeunes peuvent représenter en tant qu'ils deviennent des acteurs, tout simplement, armés. Bien. Mais, en effet, donc, c'est une composante tout à fait importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et en effet, ça va très vite, parce qu'en effet, toute cette jeunesse, et ça frappe quand on va en Afrique, c'est qu'elle est au courant de beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est sans doute lié au portable, c'est sans doute lié à toute une série d'outils technologiques, mais la façon dont elle se tient au courant de ce qui se passe dans le monde est tout à fait frappante. Je veux dire, y compris dans des coins perdus. Hein. C'est-à-dire qu'elle va vous parler éventuellement de ce qui se passe en France, hein, mais pas seulement. Hein. Et tout à coup, elle va vous citer toute une série d'événements ou de personnages du monde, hein, qui l'intéressent ou qui la fascinent éventuellement. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Et donc, en effet, il y a une espèce de citoyenneté du monde, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, qui s'exprime à travers cette jeunesse. Et en effet, on comprend pourquoi, évidemment, elle est aspirée par ce monde. Hein, et que lorsque les choses ne vont pas bien, en tout cas, il y a tous ceux qui passent à l'acte et qui donc en effet s'en vont, hein. Et il y a tous ceux qui ne passent pas à l'acte mais dont l'imaginaire est plein de ce monde, hein. Et entre les deux, ça communique, hein, parce qu'en effet tous ceux qui sont passés à l'acte et qui traversent le Sahara et la Méditerranée et qui vont en Europe, mais pas seulement en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc., ou dans d'autres pays d'Afrique, hein, puisque ça bouge aussi entre les pays africains, eh bien, ça communique avec ceux qui sont restés. Hein. Et donc, il y a là, comment dire, on s'entretient des migrations, pas seulement sur le plan éventuellement de l'argent, sur le plan des réseaux, mais aussi sur le plan de l'image, des imaginaires. Et moi, je ne vois pas là-dedans, je trouve qu'il y a là des choses positives. Et donc, j'insiste là-dessus. Bien sûr, la version qu'on a ici de tout ça, ça consiste à dire, évidemment, on voit bien à travers notre propre ministère ou à travers de l'identité et de l'immigration ou à travers d'autres déclarations qui sont faites, bien sûr, le versant de cette affaire, c'est de dire, mon Dieu, c'est l'invasion. Vous voyez, ce sont ces termes qui sont exprimés. Alors qu'il faut bien voir que, c'est une façon pour... lorsqu'on parle de co-développement, par exemple, hein, c'est un mot qui est prononcé souvent par les politiques eux-mêmes, hein, pour dire qu'il faut que, par exemple, la France ou l'Europe participent au développement de l'Afrique, mais avec en co-développement, en partenariat avec l'Afrique. Eh bien, il me semble que précisément c'est ça, hein, qu'il y a du co-développement dans cette affaire. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains ne pourraient pas vivre économiquement sans l'immigration. Hein. Les transferts financiers que ça représente est énorme. Hein. Aujourd'hui, qu'il y a la crise, il y a une baisse des transferts financiers et ça est un des effets de la crise mondiale sur l'Afrique passe par les transferts financiers qui baissent, hein, très, très précisément. Donc on voit bien que sur le plan des transferts financiers, ça pèse très, 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 très lourd. Et c'est indispensable. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui penser que l'Afrique peut évoluer sans qu'il y ait tous ces transferts qui
fonctionnent. Enfin, le développement implique quelque chose de symétrique, c'est absolument pas le cas. C'est quelque chose d'extrêmement...
Oui, mais il n'y a pas de symétrie. Ouais. Il n'y a pas de symétrie, jamais. Il n'y en a pas dans ce rapport-là.
Y compris dans ce que vous disiez sur l'information.
Ça, c'est le rêve.
Y compris dans ce que vous disiez sur l'information, c'est-à-dire d'une certaine manière, les Africains nous connaissent beaucoup mieux que nous ne les connaissons.
Absolument.
Que nous disposons des outils techniques.
Voilà, alors ça c'est une asymétrie qui renverse, qui est inversée par rapport à la première. Et donc, voilà. Et puis, autre aspect de cette expérience démocratique en Afrique, ça passe aujourd'hui largement par tout ce qui est le local. Le local et le communal, je dirais, puisqu'aujourd'hui, c'est un des avantages de ce qui s'est passé dans les années 80-90 en Afrique, c'est qu'il y a eu une communalisation, c'est-à-dire que, en dépit du fait qu'il y avait des partis uniques encore, eh bien, il y a eu l'acceptation que des maires soient élus, ce qui n'était pas rien. Ce qui n'était pas rien par rapport à ce qui était avant. Et donc, eh bien, le fait qu'il y ait des maires élus, eh bien, très vite, il y a eu des enjeux autour de ces affaires. Et donc, il y a eu, du coup, de la politique qui s'est faite dans les villes moyennes, petites, voire dans des coins reculés de la campagne. Et là, véritablement, depuis maintenant plus de 20 ans, hein, ce n'est pas une affaire toute récente, il y a une vie politique locale, mais qui a pris des formes nationales. Évidemment, c'est ce que tu as dit à propos de ce qui s'est passé autour de Abdoulaye Wade. C'est qu'en effet, voilà quelqu'un qui aujourd'hui est très rejeté par le peuple, majoritairement par le peuple sénégalais, qui entendait bien continuer à faire ce qu'il voulait, et en particulier, en effet, à placer son fils comme son héritier, et bien aujourd'hui, qui est contesté, mais dans les élections locales et des grandes villes, et en particulier, je pense à Saint-Louis, par exemple, où il a été battu aussi. Donc, on a donc là, là aussi, je veux dire, le côté électoral en Afrique, hein, tout simplement le vote, on sait ce que c'est. D'abord, je crois qu'on a appris, j'ai évoqué les années 50 quand même, il y a quand même une expérience ancienne, hein, qui remonte aux années 50, puisque quand même, c'était encore le système, pas colonial, mais un système de domination, en tout cas très direct de la part du côté de la France, des pays, des territoires d'outre-mer, comme on les appelait. Mais il y avait des partis politiques, il y avait des campagnes électorales, il y avait donc des votes, etc. Bien sûr, il y avait beaucoup de triches, hein, on a même appris à tricher à cette époque-là. Hein. À tricher, mais c'était les Français qui organisaient la triche à l'époque. Hein, pour que les partis qui étaient des partis contestataires soient battus, on sait ce que c'est et on aime bien ça. Je veux dire, la question de la vie électorale, c'est tout d'un coup, il se passe, lorsque le moment est arrivé, hein, il se passe des choses. Il y a des campagnes électorales, il y a des disputes, il y a des affrontements, quelquefois c'est des affrontements très violents, ça peut arriver aussi, mais véritablement, on sait ce que c'est. De même que moi, j'ai connu le moment où en Côte d'Ivoire, puisque tu as évoqué ce pays tout à fait important, puisque c'est quand même un des pays du monde franco-africain sans doute le plus important, j'ai connu le moment où en 90, il y a eu la contestation de Oufouette, Pouabouani, et comme par hasard, ce sont les jeunes qui sont arrivés sur la scène, hein. Eh bien, le moment où, il y a eu liberté de la presse, hein, et le moment où il y a eu multipartisme était un moment extraordinairement vécu fortement par les gens. Hein. C'est-à-dire que le plaisir de la lecture, par exemple, de plusieurs journaux, a été un moment tout à fait important. Alors, et on peut... donc c'est tout... Autrement dit, ils sont comme nous, je veux dire. Parce qu'autrement, si... Je veux dire, l'idée qu'en Afrique, il y a un monde un peu différent, hein, ou complètement différent, où ça serait autre chose, c'est ça que je dis, hein, où ça serait autre chose, où ça ne marcherait pas, ils ont d'autres façons de voir ou de penser, etc., est quand même largement une erreur, même s'il y a des ressources culturelles propres, même s'il y a des choses qui remontent à très loin. Mais il n'empêche que, véritablement, des tas de choses nous sont communes. C'est ça que je dis simplement.
Je voulais, vous avez évoqué Wade, Fouette-Boigny, etc. Je voulais rapidement poser la question des leaders. Qui sont aujourd'hui les leaders pour toute cette jeunesse africaine? Qui sont les personnalités porteuses d'espoir? Dans les années 60-70, il y avait des leaders nationalistes qui portaient les espoirs panafricains, etc. Aujourd'hui, quand on a 18 ou 20 ans, quel est le poster qu'on affiche au mur au-dessus de son lit? Peut-être celui de Mandela, mais c'est un octogénaire. Et peut-être celui d'Obama, mais il n'est pas africain. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de leader, tout simplement?
Je pense que là aussi, la réponse est simple. Il y a toujours eu en Afrique plusieurs leaders. les gens ont toujours partagé leur loyauté. C'est-à-dire que les leaders politiques, contrairement à ce qu'on croit, n'ont souvent pas eu un ancrage social très profond, mais se sont articulés, ont créé des réseaux. Et ces réseaux leur ont permis de survivre, dans la plupart des cas, par le biais de leur propre relais. Mais quand on regarde généralement, il y a toujours eu plusieurs leaders. Si vous prenez au Sénégal, les gens qui font partie des confréries soufis ont toujours eu leur leader, qui est le leader soufi et le leader politique, plus ou moins, s'ils en ont un. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, en dehors des périodes de parti unique, il n'y a pas eu un grand investissement politique des Africains. C'est pour ça qu'avec le desserrement, en fait, de l'autoritarisme, on voit émerger un leadership qui n'est pas du tout un leadership politique. Dans ma ville natale, Rufisque, le maire qui a été élu est un arbitre international de football. Et pourquoi? Parce que les gens sont très fiers qu'il ait été l'un des premiers Africains à arbitrer un match de Coupe du Monde. Donc il y a toute une série de choses qui fonctionnent, c'est-à-dire la multiplication. Et aujourd'hui, si on faisait un sondage, et ça j'en suis sûr, pour demander aux jeunes Africains le leader qu'ils se choisiraient, le paradoxe, c'est que c'est Obama. Pour des raisons qu'on ne peut pas leur expliquer. Quand je dis il n'a pas votre temps, j'ai dit au Sénégal dans une radio, Obama n'a pas le temps des Africains. Il est président des États-Unis, il a assez de problèmes avec les Américains. Il ne me croit pas. Mais il pense que... Donc il y a ces logiques qui sont très intéressantes et qui parfois, en fait, imposent ces présidents autoritaires parce que les gens ne s'occupent pas beaucoup d'eux. Et Jean-Pierre Dozon a raison qu'il y a la construction d'un pouvoir local, de démocratie qui sont des démocraties locales et l'arrivée de quelque chose qui a été en fait très important dans la vie politique française, de l'émergence de notables locaux. Et ça, l'Afrique n'avait jamais eu ça. C'est-à-dire des gens qui sont capables effectivement de proposer des projets politiques. Et pour moi, c'est aujourd'hui cela qui est important. Il a cité Saint-Louis. C'est un très jeune politicien qui a été élu à Saint-Louis, dont le père avait créé une espèce...
Abdoulaye Diaye.
Oui, dont le père avait créé une espèce de confrérie religieuse. Et en même temps, il a créé un parti, il a été élu député, il est mort, et son fils a pris le relais. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette capacité d'articulation. Et ça a entraîné une situation très intéressante. Peut-être les Français pourraient s'en inspirer à propos du débat sur le cumul des mandats. C'est l'idée que, il y a à peu près 5 ans, les Sénégalais ont commencé à avoir ce slogan assez marrant. Nous voulons des maires qui se réveillent chez nous. Au lieu d'avoir des maires tous à Dakar. Et c'est cela qui a marché cette fois-ci. Les gens ont élu des maires qui habitent avec eux. Donc la question du leadership est en train aussi de se transformer. C'est-à-dire le leader charismatique nationaliste des années 60 a disparu.
Juste avant de vous donner la parole, sur la question des responsabilités. Bon, il a été dit à ma droite et à ma gauche, la responsabilité des temps coloniales dans les difficultés de relation avec la démocratie. Est-ce qu'on peut tout rapporter à ce temps-là? Est-ce que dans le temps précolonial, qui est dans la durée bien plus important, il n'y a pas aussi des éléments qui expliquent la situation actuelle à l'égard de la démocratie?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai, évidemment, les sociétés africaines précoloniales, d'abord, elles étaient diverses. Alors, on ne peut pas généraliser, hein, mais il y avait
il y avait
ce qu'on ignore trop souvent. Mais on devrait d'ailleurs, l'histoire de l'Afrique devrait être enseignée en France, et en particulier l'histoire des royaumes africains. L'Afrique était un continent de royaumes, ce qu'on ne dit pas assez. Il y avait sans doute plus de royaumes ou de chefferies ou d'empire que de sociétés dites sans État en Afrique, sans doute plus. Bon, ça, c'est très important de le dire. Et bien sûr, ces empires ou ces royaumes ont une histoire, c'est-à-dire qu'il y en a, il y a un acte de naissance, hein, et puis il y a un acte, c'est un royaume qui grossit, hein, et puis à un moment donné, qui décline, puis après il y en a un autre, etc. Voilà. Donc, et puis on sait ça depuis quand même maintenant, depuis plusieurs siècles, l'historiographie de cette affaire-là est bien connue. Donc, alors c'est bien sûr, ces royaumes et ces empires, c'était des sociétés hiérarchisées, très rigoureuses.
Avec... Et vous dites les régimes actuels ont puisé dans
voilà,
ces références.
Souvent, les chefs d'État, en particulier les pères de la nation, ceux que évoque Mamadou Diouf, c'est-à-dire les leaders, des gens comme Nkrumah, des gens comme Oufouette, des gens ont puisé dans le répertoire de ces royautés, ils ont puisé souvent en se donnant des allures de rois. Hein, c'est-à-dire, ils ont pris tel ou tel signe ou symbole, ou quelquefois ils ont joué au roi prêtre, hein, qui était aussi des figures de la royauté sacrée en Afrique. C'est connu, Oufouette Boigny est un personnage à multiples facettes, c'est-à-dire sans doute celui qui est le plus connu de tous les chefs d'État africains francophones, donc c'est pour ça que je parle de lui. C'est un personnage d'une richesse toute, parce que quand même. On peut dire beaucoup de choses sur ce genre de personnage, mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que c'est un personnage intéressant et riche. Ô combien ? Il pourrait y avoir une biographie sur Oufouette, ou même un roman qui pourrait... Ah si, il y a eu Le tyran éternel de Patrick Granville sur lui, qui était très bien. Et donc, c'est un personnage à multiples facettes qui pouvait être à la fois... Il était député, il était médecin africain, il était planteur de café et de cacao, il était ministre de la 4e et de la 5e République. On ne le dit pas assez. Il faut rappeler ces affaires-là. Il a été bien plus que le chef d'État de la Côte d'Ivoire. Il a été, en quelque sorte, l'homme clé de l'État franco-africain, comme j'appelle, et non pas la France-Afrique seulement, l'État franco-africain, c'est-à-dire de ce système étatique franco-africain qui a fonctionné jusqu'à récemment, et qui a encore de beaux restes. Eh bien, Oufouette était aussi un Fabien, c'est-à-dire un roi baoulé. Il a été enterré comme tel. Lorsqu'il est mort, certes, toute la 5e République était à Yamoussoukro, de gauche et de droite, et donc elle était là dans la basilique de Yamoussoukro, parce qu'il était catholique par ailleurs, et il y a eu un deuxième funérailles qui était ailleurs, donc il y avait deux corps du roi. Hein, en Côte d'Ivoire, il y a eu un débat démocratique très intéressant sur quand on a exposé le corps d'Oufouette, il y avait ceux qui disaient, il y avait les Ivoiriens qui disaient c'est le bon corps et ceux qui disaient c'est pas le bon corps. Et, parce que le corps était exposé, hein, et donc il était accessible en quelque sorte aux gens. Et moi, j'ai fait la queue aussi, d'ailleurs, j'y suis allé. Je ne me suis pas prononcé pour savoir si c'était le bon corps. Mais comme il était mort depuis 3-4 mois, évidemment, peut-être que le corps n'était plus tout à fait en état. Mais il y a eu un débat, mais tout à fait passionné dans le pays, tout simplement parce que, évidemment, s'il y avait un double corps, c'est qu'il y avait deux funérailles. Donc le corps est ailleurs, en quelque sorte. Il est ailleurs pour faire les choses qu'on doit faire lorsque, dans le monde à Caen, on fait les funérailles comme on doit les faire. Voilà, donc c'est un registre. Et puis, il n'est pas le seul. Le meilleur anthropologue politiste, à mon avis, pour parler de ces choses-là, c'est un écrivain, c'est Amadou Kourouma. Je vous recommande chaudement, et sans doute certains d'entre vous ont lu ce livre, En attendant le vote des bêtes sauvages, puisqu'on parle de démocratie, En attendant le vote des bêtes sauvages. C'est sans doute le meilleur livre d'anthropologie politique sur les chefs d'État, les pères de la nation contemporains en Afrique, sur aussi bien Iyad Emaper que sur Oufouette Boigny, que sur Nkrumah, que sur Mobutu, etc., etc. Formidable livre. Et on comprend bien des choses. Bien des choses. Et Dieu sait, je parlais de la littérature tout à l'heure, Amadou Kourouma, esprit critique, esprit qui a mis à nu ses pouvoirs politiques. C'est lui qui l'a fait. C'est lui, c'est un Ivoirien qui a fait cette critique-là. C'est pas les spécialistes de l'Afrique, où quelquefois, beaucoup d'entre nous avons écrit, mais pas aussi bien que lui.
Alors, en attendant le vote des bêtes sauvages, c'est une bonne introduction pour vos questions. J'espère que vous avez affûté. Monsieur, est-ce que le micro doit distribuer ?
Monsieur. J'aurais donné un exemple, probablement très très ancien, et certainement qui suppose au départ de la démocratie. Ce sont des plantations d'arbres dans les champs. C'est pas seulement en Afrique. Et c'était aussi en Europe. mais ça se passe en Amérique latine, ça se passe en Inde, ça se passe au Yémen. Ça marche. Et les agronomes français devraient s'en inspirer. Alors j'aimerais bien que Mamadou nous en parle, parce que ça se fait au Sénégal aussi.
D'accord. Donc vous soulevez la question du lien entre le développement et la démocratie, sans doute.
Exactement.
D'accord. On prend une autre question.
Oui, merci pour ces interventions. D'abord, pour Mamadou Diouf, merci pour avoir montré comment de la périphérie on peut aller à la démocratie et que ce n'est pas nécessairement par le centre qu'on est obligé de le faire. Tout à l'heure, il va y avoir un débat justement, est-ce qu'on peut exporter la démocratie. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être dans l'idéologie assimilationniste à la française pour on est égaux tout en étant différents. Je crois qu'on ne part pas du principe qu'on est égaux et on n'est pas différents. Donc c'est intéressant de voir comment vous attaquez au relativisme et comment on peut tous aller vers la démocratie, mais de manière différente. Moi, la question que je vais poser plutôt, c'est par rapport à la formation des élites, parce que la responsabilité, elle est là. Hein. C'est dommage qu'Achille Mbembe n'est pas là, c'est parce qu'après le fameux discours de Dakar de Sarkozy, il lui a répondu, je me rappelle en 2007, je crois, ou 2008, comme quoi il oublie que beaucoup en Afrique pensent que si l'Afrique n'évolue pas, c'est à cause de la France. Comment pensez-vous, est-ce qu'il y aurait une explication dans le colonialisme, le type de colonialisme subi par les uns et les autres en Afrique? Dans les années 90, on disait que les anglophones africains sont mieux outillés pour aller vers la démocratie que les francophones, les Africains francophones. On le voit, par exemple, l'histoire de Mugabe, où les Britanniques ne le lâchent pas. Est-ce qu'il y aurait une explication par le colonialisme lui-même, c'est-à-dire ce que vous avez dit, le direct, le indirect? Merci.
Est-ce que vous pouvez faire... Oui, monsieur. Voilà.
L'exemple Obama réveille-t-il ou hypnotise la conscience africaine?
Merci, messieurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un débat de fond comme ça sur l'Afrique. Hein. En général, quand on parle de l'Afrique, on parle de faits divers, on parle de folklore et on parle donc bien sûr des affaires de corruption. Alors, il y a une question qui s'adresse à M. Diouf, qui est un grand spécialiste de l'histoire coloniale. C'est le rôle des multinationales en Afrique. Et vous n'avez pas parlé de l'impérialisme américain et chinois. Donc, on sait que pour le Liberia... Vous avez dit que le peuple a voté Mme Johnson. Or, Mme Johnson était aux États-Unis. Est-ce que sans l'aide des États-Unis, elle aurait pu être élue au Liberia? Et puis, la dernière nouvelle, c'est que les trois présidents qui ont été suivis par une ONG pour détournement de fonds publics, vous l'avez entendu comme moi ce matin à la radio, ben, ça a été reporté à plus tard. On verra ça dans quelques mois. Au début, ça a été l'euphorie des militants des ONG, militants africains, qui avaient réussi à porter plainte.
Il y a un appel contre la décision du juge d'instruction, ce n'est pas exactement ce que vous avez dit. Il y a un appel du parquet contre la décision de la juge d'instruction, ce qui veut dire que ça va tarder, mais ça ne remet pas forcément en cause.
Ça veut dire qu'il y a eu intervention politique pour les protéger encore.
Très probablement. Bien sûr. On va arrêter la première salle de questions qui est déjà... lourde. Sur la question du développement, planter les arbres de la démocratie.
C'est une question importante, mais aussi c'est une question difficile. Cette question de la relation entre démocratie et développement et la capacité, en fait, et la capacité d'avoir un système démocratique sans développement. Et je pense que la difficulté, mais aussi en même temps l'intérêt de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, mais aussi en Amérique latine et dans certains pays d'Asie, c'est là, comme vous disiez, c'est la possibilité d'essayer de réconcilier les deux. Et en fait, quand on regarde le débat aussi bien en France qu'aux États-Unis, des rapports entre la démocratie et l'inégalité comme production du néolibéralisme, on voit là aussi qu'il y a des trajectoires qui sont des trajectoires différentes. Je vous dis, c'est un peu, si vous voulez, si vous avez lu le livre de Bayrou, l'une des questions qu'il pose par rapport à Sarkozy. Donc c'est une question importante qui est une question du temps du monde d'aujourd'hui, et où les Africains, mais aussi tous ces pays de la périphérie, doivent trouver des solutions importantes. Sur la formation des élites, c'est vrai que quand on regarde les trajectoires des pays qui ont été sous domination anglaise en rapport avec les pays sous domination française, il y a des évolutions très différentes. Ce que l'indirect toujours a permis, positivement ou négativement, c'est l'invention d'une culture politique enracinée dans une histoire qui est une histoire locale. Ce qui crée des problèmes, je ne dis pas que... Mais cette culture politique offre des fondements qui sont des fondements beaucoup plus solides à une invention démocratique qui s'enracine dans, en fait, non pas des territoires, mais des terroirs. C'est-à-dire que, et là où c'est différent avec la culture française du direct rule et l'idée d'un universalisme citoyen, c'est que des sociétés qui fonctionnent comme des communautés, on tente de les organiser avec une notion abstraite qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire l'idée du citoyen incolore, inodore et sans saveur. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire donc, et on le voit par exemple dans un pays comme le Nigeria, on le voit dans un pays comme l'Afrique du Sud, où il y a cette capacité extraordinaire à organiser des démocraties locales et à construire en fait un espace public national qui répond à ces éléments-là. Et si vous voulez, c'est un peu cela aussi qui explique le cas Mugabe, c'est-à-dire cette extraordinaire capacité que Mugabe a de solliciter en fait une assise qui est une assise ethnique, mais aussi un extraordinaire savoir politique. On oublie souvent que, moi, c'est ça ma position, il aurait dû partir il y a 20 ans et il serait l'un des plus grands présidents africains. Il est trop vieux, il s'est marié avec une trop jeune femme. Il a de petits-enfants, il faut qu'il survive, il survit. Mais il est aujourd'hui encore à 85 ans, il a une extraordinaire intelligence. Bien sûr, Obama est devenu, mais c'est pas seulement pour les Africains, c'est pour tout le monde.
Un peu plus pour les Africains que pour tout le monde.
Pas sûr.
Pour les Américains, il est devenu. Je pense qu'Obama hypnotise beaucoup plus les Américains. Il est noir, il est grand, il est beau, il est intelligent. Ils n'ont jamais eu ça. Et après Bush. Et succéder à Bush dans ces conditions-là. Et c'est le drame chez les Africains, c'est de croire qu'il est un Africain. Parce qu'il n'a rien à voir avec eux. Son père est africain, il a un nom africain, il est américain. Et dès le moment où vous comprenez ça, vous comprenez quels sont en fait. Le rôle qu'il va jouer probablement en Afrique est très positif, c'est qu'il va pouvoir dire aux chefs d'État africains les yeux dans les yeux, ce que vous faites n'est pas juste et qu'ils ne vont pas pouvoir dire, oui, oui, c'est encore les impérialistes. Ils ne peuvent pas lui dire ça. Donc, l'attente qui pourrait être l'attente des Africains, c'est plutôt ça. Mais au moins, Et il y a une chose pour les Africains qui est extraordinaire, et ça, c'est ce que vous appelez cette espèce d'hypnotisme, et qui est vrai. C'est que les Africains sont très fiers, c'est que pour la première fois, plus personne ne va dire, ils espèrent, qu'un Africain ne peut pas diriger, parce qu'une moitié d'Africains est en train de diriger le plus grand pays du monde. Parce que le père, il est Africain, ce n'est pas discutable. Donc ça, c'est peut-être ça la chose. Sur le rôle des multinationales, j'en ai pas parlé, c'est un rôle important. Mais là, je voudrais dire une chose. Je fais partie d'une génération qui a décidé, même si je suis un historien du colonialisme, que ce n'est pas le colonialisme mon ennemi, ou la France. Mon problème, c'est, je suis Sénégalais, je suis Africain, c'est à l'intérieur de ces espaces-là que je règle mes problèmes. Je reconnais le rôle que la colonisation a joué, mais les causes internes aujourd'hui à la condition africaine sont plus importantes que les causes externes. Ça, c'est très clair. Et les nouvelles générations d'Africains ont compris ça, qu'on ne pouvait pas rejeter tout. Hein. Sur l'impérialisme américain, les Américains viennent de créer un commandement africain militaire. Vous savez, pendant longtemps, les Américains se sont intéressés à l'Afrique par le biais de l'Europe. Ils n'avaient pas de connaissances africaines précises. Mais aujourd'hui, les Américains produisent des connaissances sur l'Afrique beaucoup plus importantes que les Européens. Aujourd'hui, les africanistes américains produisent des informations plus importantes que les africanistes français. Parce que, tout simplement parce qu'ils ont des moyens que les Français n'ont pas. Et à partir de ce moment, on peut dire que l'Amérique est en train de s'intéresser à l'Afrique. Mais de manière très précise, les deux grands investissements américains en Afrique, c'est l'Égypte et le Maroc. Le troisième, c'est la Somalie, pour des questions qui sont des questions de sécurité. La deuxième question, c'est que l'Amérique tente de se libérer de sa dépendance pétrolière du Moyen-Orient. L'Afrique devient un enjeu important pour eux. Mais ils ont un problème que les Français n'ont jamais eu, c'est que les Noirs français ne jouent pas un rôle très important dans la définition de la politique française en Afrique. Les Africains-Américains jouent un rôle très important dans la vie politique, dans la définition de la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique. Mais il y a aussi le fait que Jean-Pierre Dozon l'a souligné, les églises protestantes jouent un rôle considérable dans cette définition. C'est pour ça que la plus grande réussite en termes de politique étrangère de Bush, c'est ça le paradoxe, c'est l'Afrique. Bush a mis de l'argent en Afrique comme aucun président américain l'a jamais fait. Et pour des choses qui sont uniquement des choses sociales, en termes de santé, en termes d'éducation. Et ça, c'est vrai. Il a mis 100 fois plus d'argent que Clinton, qui parlait tout le temps des Noirs et d'Afrique. Donc, et ça, c'est le paradoxe. Ce qui montre que ce qu'on appelle l'impérialisme américain a beaucoup changé, si vous voulez, et prend des formes qui sont des formes nouvelles. Sur Ellen Johnson Sirleaf, je la connais, elle est très intéressante, mais elle n'a rien à voir avec l'Amérique, en fait. Elle a été éduquée en Amérique, elle a travaillé à la Banque mondiale et aux Nations Unies. Et c'est une libérienne assez extraordinaire. Si elle vous entendait dire ça, je crois qu'elle vous sauterait dessus.
Alors, sur les impérialismes, on va prendre une dernière salle de questions après. Juste un mot, il n'y a pas que les Américains, il y a maintenant les Chinois qui s'intéressent beaucoup. Est-ce que c'est une chance pour l'Afrique d'avoir une concurrence comme ça ?
On va terminer là-dessus. Moi, je suis tenté de penser que l'Afrique est aujourd'hui tellement importante dans le monde qu'il se passe autour de l'Afrique quelque chose comme il s'est passé à la fin du 19e siècle, mais à l'époque c'était l'Europe, le congrès de Berlin. Et il me semble que là c'est le monde entier, donc bien sûr c'est les grandes puissances du monde, et donc les États-Unis bien sûr, mais la Chine évidemment, mais aussi l'Inde, mais aussi d'autres pays. Et je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a encore les vieux restes des intérêts français, britanniques, etc. En Afrique. Donc tout ce petit monde aujourd'hui, et ce grand monde, parce que ça fait vraiment du monde et beaucoup d'argent, beaucoup de compétition entre les uns et les autres, aujourd'hui se tourne vers l'Afrique, les Russes aussi, le Japon aussi. Et je sais, par exemple, à quel point, par exemple, je donne un témoignage au moment de la crise en Côte d'Ivoire. Dieu sait si la Côte d'Ivoire compte énormément parce qu'elle est dans la région un élément central. Il m'est arrivé d'être sollicité pour donner un avis ou une analyse par et l'ambassade de Russie et l'ambassade du Japon et les ambassades, etc. Pour, voilà, ils voyaient des tas de gens pour savoir qu'est-ce qu'il fallait penser, qu'est-ce que les Français faisaient, par exemple, hein, qu'est-ce que la France faisait. Voilà. Donc un intérêt de plus en plus grand, mais un intérêt, bien sûr, au sens où c'est pas un intérêt intellectuel seulement, mais c'est évidemment un intérêt économique, énergétique, le pétrole, l'uranium et bien d'autres choses encore.
Voilà. L'Afrique est convoitée, sollicitée. On va prendre une dernière petite salle de questions. Madame.
Bonjour. Moi, au niveau des expériences démocratiques, je voulais revenir sur la Mauritanie, sur ce qui s'est passé cet été. Parce que c'était quand même le seul président à avoir été élu démocratiquement, Sidi Ould Tiéh Kabdali. Qu'il a voulu mettre des choses démocratiques en place, surtout l'enlèvement de l'injecte militaire. Il s'est pris un coup d'État, assignation à résidence. On n'a eu aucun. Le seul président qui a réagi ouvertement, il s'appelle Abdelaziz Bouteflika, c'est le président algérien. Au niveau de la communauté internationale, la France, à part réprimer, à part enlever les aides.
La France aussi.
Oui, mais au niveau des aides, il n'y a pas eu grand-chose. Quand on voit que 3 semaines après, il y a eu quelque chose en Géorgie, on a vu tout le monde qui s'est déployé, et pas pour la Mauritanie, qu'on ne sait toujours pas. Donc est-ce que aussi, quand ce n'est pas un pays intéressant, on s'en fout royalement, on va mettre quelque chose en place, est-ce qu'on pourra un jour aider les pays africains qui ont envie Et quelle image on peut donner aussi aux Africains qui ont envie de devenir démocratiques? Quand un président est élu, il peut se faire jeter comme une vulgaire chaussette. Je voulais revenir aussi sur le fait que...
On a déjà dépassé l'horaire. Oui, je voudrais prendre une question qui est au fond. Vous n'avez pas de micro, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Pierre-Yves Schneider, journaliste. C'est plus une intervention qu'une question, pardonnez-moi, mais je trouve qu'il serait obscène que dans un débat comme ce type, qui porte ce nom... Les expériences démocratiques en Afrique, on n'évoque pas aujourd'hui la nôtre d'expérience qui concerne le Rwanda, avril 94, c'était il y a 15 ans. La France est intervenue avec probablement une certaine conception de la démocratie en Afrique et à Kigali, on le sait aujourd'hui. Je serai très court, monsieur Bernard. Pourquoi pas ? Non, pas sur le génocide. Simplement sur le fait qu'il me semble qu'il y a un rapport évident entre le Rwanda, ce qui s'est passé là-bas, et le thème de ce débat. Il me paraît important que lors d'un débat comme ça, il y ait une prise de parole pour dire nous sommes encore très nombreux et nous devrions l'être de plus en plus à exiger de la part de nos responsables politiques, de droite ou de gauche, d'être plus explicites sur les raisons pour lesquelles
c'est plutôt la démocratie en France dont vous parlez, là, je crois.
Pour laquelle la France a aidé a été forcément, d'une manière que l'on veut toujours nous cacher, complice d'un certain nombre de choses, de fonctionnements qui sont une honte pour la France entre 90 et 94. Rappelons simplement qu'il s'agit d'un génocide, du troisième génocide du siècle, entre 800 000 et 1 million de personnes. Donc comment évoquer un débat sur les expériences démocratiques en Afrique sans faire allusion à ça et en dire que nous et en répétant que nous devons être de plus en plus nombreux, les témoignages sont de plus en plus nombreux, les livres qui paraissent, les articles montrent qu'on nous trompe sur le sujet. Je termine, ne vous inquiétez pas. Alors je vais poser une question et qui n'est pas en rapport avec le Rwanda. Monsieur Diouf, vous avez tout à l'heure évoqué le fait que selon vous, on devrait peut-être moins intervenir. Dans les guerres en Afrique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Je n'ai pas très bien compris. Les conflits aujourd'hui en Afrique, c'est vrai que moi j'ai plutôt l'impression que les puissances anciennement coloniales, ou bien les Chinois, ou bien les Européens, les Américains, ont tendance plutôt à, à mettre, voilà, à aiguiser ces conflits plutôt qu'à essayer de les faire disparaître.
Donc,
qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
Laissez parler le troisième, puis on va arrêter. Malheureusement, le temps est fini. Oui. On vous écoute.
Ma question, je vais la résumer en trois mots. Ethnie, frontières actuelles, qui datent, je pense, la plupart du temps du colonialisme. Et troisième volet, espoir éventuel de confédéralisme ou de fédéralisme africain. Voilà, je pourrais développer, mais je pense que ça doit se comprendre.
Moi, je veux bien répondre, mais c'est vaste sujet. Là.
Un mot sur laisser les Africains se faire la guerre et ne pas intervenir.
Ce que j'ai voulu dire, et je pense assez simple, en général, les gens disent que c'est parce que je suis un historien. L'idée, c'est que quand le conflit, y compris le conflit violent, est une forme de résolution des différends, à partir du moment où on se trouve dans des situations de conflit, il y a plusieurs manières de voir les choses. D'une certaine manière, c'est d'essayer de trouver des solutions, mais des solutions durables. Ou de laisser le conflit s'épuiser et un vainqueur émerger, et à partir de ce moment, négocier. Donc ce que je le dis à partir d'expériences qui sont à la fois l'expérience du Libéria, dont j'ai parlé tout à l'heure, où on aurait pu économiser 8 ans de guerre civile en laissant Taylor prendre le pouvoir et négocier avec lui, ce qui arrive tout le temps. L'autre cas qui le montre, c'est l'incapacité aujourd'hui de la France de s'extraire du bourbier ivoirien. Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire ? Gbagbo ne veut pas organiser des élections. On va continuer comme ça. Il aurait mieux valu laisser quelqu'un gagner et négocier une transition. Parce que négocier la transition dans cette situation est plus facile. La France aurait pu, quel que soit le vainqueur, la Côte d'Ivoire est tellement dépendante de la France que la France avait les moyens de négocier. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui n'est pas possible. C'est tout ce que je voulais dire. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand les gens ont leur conflit, il n'y a aucune raison que d'autres gens s'y mêlent. Donc, moi, je défends l'idée que si ce n'est que par le conflit que les Africains règlent leurs problèmes, on n'a qu'à les laisser s'entretuer.
Sur la Mauritanie,
sur la Mauritanie, très rapidement, la Mauritanie est très importante. La Mauritanie est en train de devenir un gros producteur
pétrolier.
De pétrole. Mais c'est aussi, l'Union européenne, la pêche, si vous savez. Et le troisième élément, et c'est pour ça que Bouteflika est entré, c'est que le Sahara est en train de devenir comme la frontière afghano-pakistanaise, avec les terroristes, entre guillemets. Donc cette question de la Mauritanie devient une question importante. C'est pour cela, en fait, que la plupart des pays n'ont pas réagi. Mais la France a réagi. L'OUA a condamné et l'OUA continue à pousser à l'organisation d'élections. Donc on se trouve dans une situation
qui doit avoir lieu au mois de juin.
Oui, et c'est une situation qui est vraiment la situation que j'ai décrite. De ces trajectoires très très complexes. Vous savez, tout le débat autour du président mauritanien tourne autour de sa force de caractère, du rôle de sa femme et de sa famille, de ses rapports avec son chef religieux qui est sénégalais, ce qui donne une situation assez intéressante. Sur le Rwanda, je suis désolé, dans ma première intervention, je l'ai souligné comme un des éléments importants du rôle que les puissances négatives que les puissances occidentales ont joué. Donc j'ai bien parlé du Rwanda.
On va finir sur la... C'est faible. On va juste finir sur la question des frontières. Est-ce qu'elles sont encore le cadre adéquat ? Est-ce qu'elles empêchent les confédérations de se former ?
Vaste sujet, parce que là, ça demanderait presque de faire une séance à nouveau. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. La question des ethnies, États et fédéralisme possible. Alors, une réponse très simple. Moi, je ne crois pas à l'argument qui est le plus fréquemment avancé partout, dans la presse, etc., que les États africains soient des États artificiels aux frontières artificielles. Je veux dire, certes, c'est les colonisateurs qui ont tracé les frontières, toutes, sauf pour l'Éthiopie ou le Libéria, qui était là depuis longtemps. Mais depuis le temps, ces frontières ont pris de l'épaisseur. Il y a une histoire de ces pays. Sénégalais, Ghanéens, Ivoiriens, il y a une histoire. Et les ethnies, il ne faut pas les référer, il l'a dit d'ailleurs Mamadou, il ne faut pas les référer à la tradition, au passé immémorial de l'Afrique, et les États seraient des États qui seraient uniquement de l'artifice créé par les colonisateurs. Les ethnies africaines ont pris sens à l'intérieur de ces États. C'est-à-dire que bien souvent, c'est parce que les États coloniaux ont été tous, que ce soit les Britanniques, les Français, etc., ont été des États ethnographes. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que les ethnies en question soient bien matérialisées sur le territoire, hein, et que les noms ethniques ont pris sens en même temps que les autres, disons, aspects du pays. Voilà. Donc il ne faut pas les opposer. Et même les conflits ethniques qui surgissent en Afrique sont des conflits qui sont nés à cette époque-là. C'est des conflits contemporains, modernes, ce n'est pas des conflits anciens. Aucun conflit ethnique, surtout pas le conflit au Rwanda, ne fait sens par rapport à la période précoloniale. Aucun. Tout fait sens à partir de cette histoire-là. Et donc, la question ethnique et la question étatique sont des questions qui vont ensemble. Ce n'est pas des questions qui divergent. Alors, bien sûr, ça demanderait des explications assez longues, et je ne peux pas le faire maintenant. Par ailleurs, l'autre aspect qui me paraît très important, c'est de dire qu'en effet, il serait bon qu'un certain nombre de pays africains, parce qu'ils ont des complémentarités des économiques et des échanges bien plus importants qui n'existent, trouvent des formes de, je ne sais pas lesquelles, si c'est fédéral ou confédéral. En effet, c'est tout à fait souhaitable et qu'il y a un dépassement, en quelque sorte, des États tels qu'ils sont. Mais à mon avis, il y a du nationalisme en Afrique, hein, bien plus qu'on ne le croit. Du nationalisme au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire le fait qu'on soit sénégalais, qu'on soit ivoirien, croyez-moi, aller dans les stades de football, et ça fait largement sens. Hein. Donc, encore une fois, on peut être ethniquement marqué, au sens où on peut se dire wolof, mais on peut se dire sénégalais aussi bien. Je veux dire. Donc, voilà, ça ne s'oppose pas. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire passer parce que malheureusement, et ça c'est le sens commun et c'est aussi la presse qui le dit à tout moment, et on a beau expliquer les choses, ça revient sans arrêt. Par exemple, dans le conflit Rwanda, il s'agit de deux ethnies, hein, qui s'opposent depuis la nuit des temps, c'est comme ça que c'est présenté, ce qui est faux. C'est pas que, ça ne se présente pas de cette façon-là, tout ça c'est construit. Tout au long de la période coloniale, ça s'est racialisé de façon tout à fait incroyable entre ces deux catégories, hein, et ça aboutit à toute une série de choses, avec bien sûr les implications que l'on sait ensuite des puissances, comme tu l'as dit, et de la France dans cette affaire. Alors, mais véritablement, c'est un sujet délicat, compliqué, mais qu'on peut expliquer si on y prend le temps, mais ce n'était pas le sujet, véritablement, donc, mais à l'occasion, je reviendrai pour en parler.
Je crois qu'il y avait des dizaines de sujets de débat dans ce débat. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit arrêter. La bonne, c'est que pour ceux qui y veulent, on peut répondre aux questions en dehors de cette salle, et merci beaucoup d'avoir été là. On espère que vous puiserez dans les débats matière à mieux comprendre la démocratie, à aider à sa construction.
Merci. C'était très bien, moi. Monsieur Bernard.